Pistéu sur RFI.
Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Radio France Internationale, de RFI, Rossiya Dobrye Vecher, comme on dit en russe et comme nous disions tous ces derniers temps, puisque nous parlons toujours de Coupe du Monde sur RFI, dans Radio Foot, sur les ondes et aussi sur le Facebook Live que vous pouvez partager, n'hésitez pas. Alors, Brésil-Belgique, quart de finale qui s'est joué cet après-midi et il a bien failli être une autre de ces affiches improbables de ce mondial, ce match de vendredi, puisque les Brésiliens, s'ils ont réussi à construire patiemment leur victoire sur les Mexicains, les Belges ont eux bien failli rentrer plutôt que prévu, menés de 2 buts par les Japonais. Les Samouraïs ont ensuite sombré en fin de partie, encaissant 3 buts sans plus d'espoir de disputer les prolongations. Les Diables Rouges, soulagés donc qualifiés alors que les Japonais réalisaient mal qu'ils étaient éliminés. Olivier Pron nous en dira en plus d'ici quelques instants. Suède et Suisse, Colombie et Angleterre, des 4 sélections, 2 demain soir, seront donc en quart de finale de cette Coupe du Monde. Les Suédois qui depuis des semaines renversent tout sur leur passage, et pourquoi pas les Suisses, plutôt favoris de cette première confrontation. Et puis les Cafeteros qui arrivent avec une immense motivation et 2 stars, le capitaine Falcao et l'incertain James Rodriguez, alors que les Anglais voudraient enfin être crédibles sur la scène mondiale. Enfin, une star est née samedi dans cette planète football et il joue pour les Bleus. Kylian Mbappé, star, a déjà 19 ans. Il y aurait du Pelé chez ce gamin qui court à 37 km/h parfois sur un terrain de foot. Y a-t-il déjà trop de pression sur les épaules de ce précieux joueur de l'équipe de France? Eh bien, nous en parlerons notamment avec Sidi Colmarès. Bonsoir Sidi.
Bonsoir.
Alors vous êtes, Sidi, notre consoeur, vous êtes vénézuélienne. Je rappelle aux auditeurs qui n'ont pas encore pris l'habitude de vous entendre sur RFI. Et vous parlez foot et notamment, bien, vous pourrez bien nous parler des latino-américains. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Freddy Koula qui est là. Bonjour Freddy.
Hola, bonjour.
Notre ami du Gabon qui est là fidèlement entre ses études sérieuses et le football.
Très heureux d'être
très
là.
Très sérieux aussi.
On essaye.
Radio Foot, c'est parti sur les ondes et sur Facebook Live.
Direction la Russie pour vivre la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.
Le but japonais, le face-à-face remporté par Haraguchi, magnifiquement servi par Shimazaki dans la profondeur. Minuit, attention à la frappe de lui, le deuxième but, le dominant, le break japonais, Inoui a entré la surface, la balle vraiment roulée.
Et cette fois, il y a grand danger pour les Diables Rouges. Ça va rester dans la surface de réparation, on la remet, oh le but, oh incroyable ce but, il est signé Vertonghen qui était là, il se rattrape de son erreur.
Le centre de Hazard, la tête de but, l'égalisation,
Fellaini,
et voilà que tout est relancé.
Kevin De Bruyne qui a un petit peu de champ, il peut donner aussi sur sa droite, avec Thomas Meunier dans la surface de réparation, qui est tué, le but il est Chadli, qui vient fusiller Kawashima et offrir aux Belges une qualification pour les quarts de finale.
La danse des Diables Rouges qui ont donc fini par vaincre une rencontre très mal embarquée, on peut dire, pour eux. 2 buts en début de deuxième mi-temps. La Belgique qui est revenue enfin pour se qualifier. Un scénario improbable auquel vous avez assisté, Olivier Pron. Bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Olivier, quelle joie pour ces Diables Rouges, ces Diables de Belges qui ont failli nous faire une bonne blague, et aussi quelle tristesse pour les Japonais passés si près de l'exploit.
Ah oui, parce qu'il faut bien rendre hommage aux Japonais, c'est vrai, ils sont passés tout près d'un exploit historique, ils n'étaient jamais allés... aussi loin qu'un huitième de finale, et ils étaient tout près d'un quart de finale, et franchement l'image était très touchante de les voir s'effondrer comme ça au moment du but, puis quelques secondes plus tard au moment où l'arbitre sénégalais a sifflé la fin de la rencontre, ils sont restés longtemps très dignes à aller saluer vraiment à la japonaise leur public, et pendant ce temps-là, bah, évidemment pendant ce temps-là, les Belges, eux, étaient tout à leur joie. C'était un match de déglingo, on l'a dit à l'antenne avec Hugo Moissonnier, et franchement, vraiment un huitième de finale exceptionnel, ici à Rostov, et on signerait volontiers tous les jours pour en voir comme ça, mais c'est peut-être pour ça qu'on les apprécie, c'est que ça n'arrive pas si souvent ces matchs-là.
Oui, ça n'arrive pas tous les jours, surtout Olivier, qu'on a droit à un tel spectacle. En tout cas, comment vous, qui étiez si près de la pelouse, entendez-vous cette finalement presque indolence belge, pas en première mi-temps, mais en début de deuxième mi-temps, quand ils encaissent coup sur coup ces deux buts, et puis le réveil, parce qu'après ils vont enfiler trois buts, et à la manière belge, on peut dire.
Oui, mais parce qu'il y avait beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'imprécisions. Ils ont manqué de réalisme. Je pense qu'ils se sont vus trop beaux. Les Japonais sont parfaitement rentrés dans la partie. Puis finalement, au milieu de la deuxième mi-temps, ils ont semblé mettre un peu le pied sur le ballon, contrôler la rencontre. Les Belges, bon, il y avait 0-0 à la pause, mais on sentait qu'ils avaient a priori le match en main. Et puis, je pense que les mots peut-être du sélectionneur à la mi-temps, du côté des Belges, les Japonais, les ont galvanisés, et ils sont revenus comme des morts de faim, vraiment, deuxième mi-temps, alors qu'au contraire, les Belges, tranquillement, presque un peu de suffisance peut-être du côté des Diables Rouges. Et puis voilà, ils se sont retrouvés menés 2-0. Incroyable, vraiment, de les voir menés 2-0 sur les buts d'Araguchi et de Inouï. Ça les a peut-être réveillés, encore que pas tout de suite, hein, parce qu'il y a eu vraiment 10 minutes, un quart d'heure, où on rappelle que le premier but, il vient d'une faute de Vertonghen, qui apprécie mal la trajectoire du ballon, qui réagit trop tard. Le deuxième but, c'est pareil, c'est aussi une erreur de la défense. On s'est demandé, mais il faut changer de système, ils sont aux fraises. Nos amis Vertonghen, Alderweireld et compagnie. Et compagnie manquait peut-être un peu de jeu, puisqu'il revenait de blessure. C'est vrai qu'aussi les Belges ont été 9 jours sans jouer, en tout cas 9 jours pour les titulaires, puisqu'ils étaient qualifiés au bout de 2 journées, et que l'entraîneur Martinez a fait beaucoup tourner pour le troisième match face aux Anglais, donc peut-être un manque de rythme. Puis tout d'un coup c'est revenu, tout d'un coup ça s'est emballé, il y a eu des vagues rouges successives, et puis il y a eu un super Eden Hazard. Lui, il a vraiment été bon tout le long du match. Il aurait pu d'ailleurs égaliser si sa reprise n'avait pas trouvé le poteau, alors qu'il n'y avait qu'un zéro. Il y a le but de Vertonghen qui ramène à 2-1. Il y a la tête de Fellaini sur ce centre merveilleux d'Hazard. Et puis au bout du temps additionnel, vraiment ce mouvement incroyable initié par Courtois, la main qui trouve De Bruyne dans le rond central, la chevauchée de De Bruyne qui écarte sur Meunier qui centre, Lukaku qui a l'intelligence de laisser filer parce qu'il a Chadli derrière qui peut venir vraiment crucifier Kawashima. Énorme fin de match, vraiment, et scénario absolument incroyable. Voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur qui a gagné, mais en tout cas, il fallait bien un vainqueur, et ce sont les Belges.
Olivier, on a eu l'impression ici, derrière l'écran bien sûr, mais qu'il y avait quand même une erreur de la part de ces Japonais qui ont toute fin de match et essayent de marquer, évidemment, quand il y a un corner et un coup franc, et finalement se retrouvent à 10 devant Courtois, et du coup ben se laissent dépourvus derrière.
Oui, mais vous ne pouvez pas le jouer, le corner. Vous ne pouvez pas jouer le coup franc. Voilà, ils ont tout fait pour conserver le ballon le plus longtemps possible. Ils visaient clairement la prolongation. Les Belges en voulaient plus. Les Belges, ils n'en voulaient pas de cette prolongation. Ils avaient repris la main et ils estimaient qu'ils pouvaient sans doute aller chercher la qualification pour le quart de finale dans le temps réglementaire. Tout le monde était convaincu qu'il y aurait une prolongation. Mais cette contre-attaque a été absolument phénoménale. C'est vrai, suite à un coup franc, peut-être pas très bien tiré, mais ils ont été tellement surprenants dans le bon sens du terme, les Japonais. Vraiment, on a beaucoup dit qu'ils se sont qualifiés au fair play, c'est pas très joli, voilà, ils avaient bien commencé, mais ils ont moins bien terminé. Vraiment, chapeau à cette équipe japonaise qui a fait un énorme match.
Freddy, vous êtes aussi fasciné par ces samouraïs?
Ouais, bon, après, à la fois un peu, ils nous ont montré une image contrastante par rapport à...
Je vous vois avec une cravate bleue, pour
ouais,
ça.
Justement. voilà. Mais voilà, ils nous avaient montré une belle impression sur leur premier match, notamment quand ils avaient réussi à prendre de revers, entre guillemets, la Colombie, même s'il y avait eu un fait de jeu. Sur le dernier match de poule, notamment, ils avaient été énervants, même si on avait le cœur un peu sénégalais. Ils étaient restés sur un goût, un beurre. Mais sur ce match-là, je les ai trouvés dans la lignée des propos qu'avait émis le sélectionneur à l'entrée de la compétition, justement, quand il disait que son équipe le gagnerait, que s'il il y a une notion de solidarité et ce côté gagnant et gagneur, ce côté travailleur aussi. Ce sont les valeurs japonaises, ce sont les valeurs de samouraï entre guillemets qui ont éclaté lors de cette deuxième mi-temps là parce que justement aussi les Belges leur ont laissé l'espace, leur ont laissé la place et puis il y a eu 2-3 erreurs aussi notamment d'inattention de nos amis belges, mais en gros ils ont montré un caractère incroyable comme celui qu'ils avaient montré face à la Colombie.
Cindy,
alors moi je veux parler surtout des Belges parce qu'ils m'ont semblé vraiment très naïfs au fait dans ces matchs là. C'est un peu comme s'ils s'attendaient pas à que les Japonais aient aussi autant envie en fait de gagner.
Ils ont pas été naïfs, ils ont été plutôt arrogants, je pense.
Je sais pas. En tout cas, ils avaient du mal. Après, il faut aussi avouer que les Belges n'arrivaient même pas à rentrer dans la surface pénale les 16 premières minutes et c'est qu'ils n'arrivaient même pas. Et ensuite, après, ils avaient quand même Kawashima qui était très 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 fort pour les repousser. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. En fait, il y a un grand mérite, beaucoup de respect pour la sélection japonaise, mais également du côté des Belges, je trouve pas qu'ils ont fait, en tout cas, la première partie du match pendant la première temps, ce qu'il fallait pour les repousser.
Nabil,
sur les Belges ou les Japonais?
Comme vous voulez.
Non, mais moi, je vais plutôt parler des Japonais, puisque les Belges, on aura l'occasion d'en parler très longuement.
On va y venir,
une sélection qui va continuer la compétition, qu'on connaît un peu mieux. Évidemment, il faut saluer le travail de cette sélection japonaise, bien organisée. Mais moi, c'est comme pour le Mexique. On a l'impression d'être surpris de voir les Japonais bien jouer au football ou le Mexique bien jouer au football. Mais c'est des nations qui sont régulièrement qualifiées en Coupe du Monde et qui se qualifient régulièrement en huitième de finale. Tout à l'heure, les Mexicains, c'était leur septième fois en huitième de finale. Donc c'est quand même des nations, et le Japon, c'est une nation aujourd'hui qui arrive à exporter des joueurs. Vous avez la moitié des joueurs japonais qui évoluent en Bundesliga quand même, c'est un championnat majeur. On a l'impression de les découvrir.
Deux qui évoluent en Ligue 1.
Ouais, Inouï, moi je le découvre pas. Je l'ai vu à l'Eintracht Francfort plus d'une fois, il joue avec un international algérien, Karim Matmour. Là, il surperforme. ACB, il est très bon au milieu de terrain. Il joue à Francfort également aussi. Donc, c'est quand même une sélection nationale qu'on sous-estime. Alors, peut-être, vous avez raison, Cindy. Peut-être que les Belges sont arrivés avec une forme de suffisance.
Ils étaient favoris de ce match, a priori.
Vaut mieux jouer le Japon que la Colombie ou le Sénégal. Quoi. Ça, c'est certain.
Mais c'est vrai qu'il y a eu des surprises, enfin, des sacrées surprises quand même dans ces matchs, et notamment les Mexi.
Ça, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de surprises. Écoutons, justement, Thomas Meunier, au micro de nos confrères de beIN Sport, le joueur du Paris Saint-Germain. Soulagé d'avoir pu remporter ce match avec ses camarades, mais vous allez l'entendre, ils sont aussi passés par une sacrée dose de stress, ces Belges.
Entre Marwan, Kompany, Vertonghen, c'est des joueurs qui font toujours la différence sur phase arrêtée et aujourd'hui c'est encore le cas. Mais c'est des frayeurs, c'est des doses de stress, hein, c'est des frayeurs un peu inutiles, je vais dire, mais c'est le football et on en connaîtra d'autres, des moments compliqués. Et maintenant, voilà, focus sur le Brésil, ça va être une affiche exceptionnelle. On sait que c'est maintenant ou jamais pour la nation belge de montrer qu'on a le talent et la génération dorée que tout le monde surnomme. Et voilà, on va faire le max.
Olivier, cette génération dorée, le problème c'est que dans les dernières compétitions, on pense à la Coupe du Monde 2014 et à l'Euro 2016, ils avaient un peu déçu. Alors, on accusait parfois l'entraîneur, manque de stratégie ou de tactique. Mais là, on a eu l'impression peut-être qu'il y avait aussi un manque de force mentale, de croire en eux.
Allô ?
Oui ?
Allô ?
Olivier ?
Oui, 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 je vous entendais plus. Mon premier téléphone a dû lâcher et maintenant, je vous ai récupéré sur l'autre. Ouais, je suis comme un joueur de foot, vous savez, si j'ai deux téléphones, je me prends un peu pour David Kelly.
Tu sais que je suis au téléphone.
Parce qu'il doit sur le live. Ou comme Marcel Desailly à l'époque. Olivier, je vous repose la question. C'est ces Belges qui avaient déçu lors des compétitions précédentes. Thomas Meunier nous parle lui-même de cette génération dorée qui fait rêver, mais qui ne confirme pas. Est-ce que là, ils ont pas manqué aussi de mental jusqu'à un certain moment où ils se révoltent sur la pelouse?
Non, mais on l'a dit, certainement à un moment un peu de suffisance, c'est une évidence, mais après, voilà, il y avait un bon bloc en face aussi. On a vu hier les équipes, hein, l'Espagne ne pas réussir à percer le coffre-fort russe, on a vu la Croatie avoir du mal face au Danemark. Voilà, c'est des huitièmes de finale parfois compliquées, on le voit la plupart du temps. Et là, je pense que la génération dorée, c'est une question, on a diffusé d'ailleurs cet extrait d'interview dans l'avant-match, l'entraîneur Roberto Martinez disait la génération dorée, elle est là, elle est toujours là, elle a mûri, elle évolue, et puis il y a surtout une autre génération qui arrive derrière. On est un tout petit pays, 11 millions d'habitants, mais on a vraiment du réservoir. Il parlait de joueurs qui ont évolué contre l'Angleterre, notamment lors du troisième match, Youri Tielemans et compagnie. Donc voilà, lui, hier, Eden Hazard, il nous assurait que justement 2014 avait servi de leçon. Alors, 2014, il perd quand même en quart de finale contre l'Argentine, hein. C'est pas une honte. Et quand quand ils sont éliminés en quart de finale par le Pays de Galles. Là, c'est un gros échec. Ça a coûté sa place à Mark Wilmots. Donc voilà, ils nous avaient assuré qu'on ne les y reprendrait plus. C'est passé pas loin là quand même.
Oui. Et en même temps, cette génération dorée, ce qu'on peut dire, Nabil, c'est que elle n'est pas toujours titulaire dans son propre club. Tous les joueurs, alors bon, en dehors de compagnie qui lui a été beaucoup blessé, mais Thomas Meunier ne l'est pas. Il y a des joueurs qui.
Thomas Meunier ne l'est pas, mais quand il est bon. Donc c'est plutôt, c'est plutôt rassurant. Alors après, vous pouvez trouver cette situation dans d'autres sélections nationales. Giroud n'est pas toujours titulaire non plus en club. Alors après, c'est vrai que franchement, c'est un peu comme l'Uruguay ou la Croatie. C'est pas des grands pays de, c'est pas des grands pays, mais c'est des grands pays de football. Enfin, je parle en termes de superficie et également de démographie. Je veux pas leur manquer de respect parce qu'ils ont aussi des grandes histoires. C'est une équipe que je trouve absolument fantastique. Alors évidemment, elle est déséquilibrée parce qu'elle joue en 3-4-3. Ce soir, elle s'est exposée à la vitesse et aux transitions offensives de cette équipe japonaise qui s'est projetée dans le dos des couloirs et notamment ceux de Meunier et de Ferreira. Carrasco, mais elle a une puissance offensive quasiment incomparable dans ce tournoi. Pour moi, il y a trois équipes qui sont aussi bien loties offensivement. C'est le Brésil, évidemment, la France et la Belgique. Et ce que j'aime dans cette équipe de Belgique, c'est que c'est vrai, on sent de la maturité, on sent aussi un collectif et on sent aussi des gens qui veulent jouer ensemble. Lukaku sur le troisième but, c'est tout un symbole.
Ah, c'est énorme.
Laisse passer le ballon alors que son boulot, c'est de terminer. Mais il a l'intelligence de savoir que Chadli arrive dans le dos, et puis Eden Hazard que je trouve dans un rôle presque de grand frère maintenant. Pourtant c'est un jeune joueur, mais on sent que c'est un grand frère. Quand ils sont menés, ils paniquent pas, ils regardent, ils calment les autres, et ça franchement ça fait plaisir. Et Martinez a fait des choix forts, et c'était un des problèmes de l'équipe de Belgique, c'était de pas choisir. Il a pas pris un joueur que je trouve absolument extraordinaire, qui serait titulaire tous les jours, mais peut-être pour le bien-être collectif et pour l'équipe de son équipe, il n'a pas pris. C'est Rajda Nainggolan qui vient de signer à l'Inter. C'est un joueur qui est titulaire dans toutes les sélections du monde.
Lukaku, c'était extraordinaire. Enfin, quel joueur n'aurait pas frappé cette balle? C'est ça. C'est la première chose que je me suis dit.
Surtout un buteur comme lui.
Bah, c'est et son plus beau geste technique du match.
C'était d'une intelligence.
Totalement.
Oui, non, c'était magnifique. Donc, je pense aussi que la Belgique va vraiment nous surprendre. Je pense qu'elle nous surprend déjà elle va aller, je pense qu'elle a les capacités, en tout cas, d'aller très très loin par rapport à l'attaque.
Et
oublions pas Thierry Henry, parce que j'ai entendu par-ci par-là qu'apparemment il y a des gens qui oublient qu'il est là, mais quelle force il a donné quand même à cette attaque. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose qui les porte, et moi je pense que les côtés français des Thierry Henry là-dedans, il y a
jusqu'à ce qu'ils égalisent, on se demandait s'ils n'étaient pas dans la lignée de ce qu'ils avaient montré notamment à l'Euro en se faisant éliminer par le Pays de Galles, ce manque de
mentalité.
Ouais,
mais là tu sens mentalité. Qu'ils jouent bien quand même.
Ouais, je sais, mais
alors qu'à l'Euro, ils jouaient pas toujours bien.
Au mental, il manquait quelque chose, jusqu'à ce qu'ils réalisent. D'ailleurs, avec le changement, tu as parlé du travail de Martinez. Il a presque failli se tromper. Déjà, sur le positionnement de Bruyne, en le mettant un peu trop bas, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées dès l'entame du match. On a vu que quand il est un peu plus haut et il est lancé dans la profondeur, il peut faire une différence, notamment sur ce but. Voilà, bien. Bah ouais, encore que là, c'était une situation où ils ont allé en compte depuis le corner. Mais cette équipe-là, moi, je suis, s'ils gagnent, pour moi, c'est pas une grande surprise parce qu'ils ont le talent pour. C'est s'ils perdent qu'on se pose des questions, notamment parce que jusque là ils sont à la recherche des matchs références et d'une compétition référence. Ils l'ont toujours pas, ils n'ont pas joué, excuse-moi Annie, juste dans les matchs éliminatoires, ils n'avaient pas une poule où il y avait de bonnes équipes. Ils ont joué un seul vrai match en amical, notamment contre l'Espagne, ils l'ont perdu 1-0. Je cherche toujours ce match référence là avec ces joueurs.
Olivier, justement, chercher un match référence, il arrive tout droit là, ça sera le quart de finale. Et face au Brésil.
Enfin, ils n'ont pas de match référence. Je suis pas tout à fait d'accord avec Freddy Koula. D'abord, je trouve que Martinez, c'est lui qui fait gagner le match. Il fait deux changements qui sont déterminants. Il sort Carrasco. Il sort Carrasco qu'on n'avait pas vu. Il sort Mertens qu'on avait un peu plus vu. Il fait rentrer Fellaini qui marque un but. Et il fait rentrer Chadli qui marque un but.
C'est lui qui l'a choisi à la base.
Là, il a juste 10 sur 10.
C'est lui qui l'a choisi à la base aussi.
Donc voilà. Bah oui. Mais enfin bon, sur ce coup-là, coaching gagnant, il n'y a rien à dire.
Ah, oui.
Ensuite, ils survolent leur poule en Europe. Effectivement, 9 victoires, 1 nul. Alors même si la poule est faible, la France n'avait pas une poule forcément moins faible, et elle s'est pas promenée de la même manière. Ensuite, ils sont dans un groupe quand même où il y a l'Angleterre. Ils sont les premiers à sortir avec 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, 2 encaissés. Donc, ils sont quand même là. Même si on n'est pas toujours emballé par leur jeu, évidemment que c'est pas une surprise de les retrouver là. Enfin, ils font le métier. Il n'y a pas une équipe parmi les favoris, à part peut-être le Brésil, qui fait le métier aussi bien qu'eux depuis le début de la compétition.
À une nuance près, c'est que vraiment, la première mi-temps, on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, moi, j'ai été très surprise de voir les Belges se faire mener comme ça.
Non, mais la première mi-temps, ils ont été pris au piège japonais, parce que je trouve qu'ils ont été intelligents, les Japonais, en bloquant notamment.
Ils sont très méthodiques, hein. Enfin, de toute façon, leur entraîneur, on sent qu'il y a les côtés méthodiques.
Olivier, juste une dernière question. Alors, quelle est leur force, selon vous, à ces Diables Rouges, face aux Brésiliens qu'ils rencontreront vendredi soir?
Ça va quand même être bien compliqué s'ils ne resserrent pas un peu les lignes, parce que défensivement, c'était quand même pas tout à fait ça aujourd'hui. Hein. Ils s'en sortent, encore une fois, presque miraculeusement. On ne sait pas ce qui se serait passé en prolongation. Voilà, offensivement, bien sûr qu'ils sont là, et vous avez évidemment bien fait de parler de Thierry Henry, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a apporté énormément. Moi, je pense que ce match-là peut remettre la tête à l'endroit. Qui n'est pas motivé à l'idée de jouer un quart de finale de Coupe du Monde contre le Brésil, ça, c'est une affiche qui promet tellement. Alors méfions-nous, parce que les affiches qui promettent tellement, elles peuvent accoucher parfois des montagnes à couche de souris, mais voilà. Alors je vous le dis tout de suite, par contre, c'est Hugo Moissonnier qui va la commenter. Pour information, Hugo Moissonnier, il a commenté France-Argentine 7 buts, il a commenté avec moi ce soir 5 buts, donc il ne peut pas nous décevoir, Hugo Moissonnier. Il a la main sur cette Coupe du Monde. Il a la main sur cette Coupe du Monde, donc ça va être chaud bouillant. Moi, je pense quand même que les Brésiliens sont un peu plus solides sur ce que j'ai vu des Belges, mais ça peut changer. Il y a 4 jours là maintenant, et mentalement les Belges vont arriver fort avec cette victoire.
Eh ben, on va en parler justement de ce Brésil et des buts qui ont été marqués aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier, bonne continuation du côté de la terre russe. À très bientôt.
Au revoir à tous.
Botou na frente, perna esquerda, soltou a bomba. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É do Brasil! É seu Neymar! É seu Neymar! É seu toque! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Bora, Brasil! Chicharito e o Galhardo. Soa tchau, soa tchau, soa tchau, tchau, tchau. Os mexicanos estão chorando porque essa Copa eu vou ganhar.
Michel Tello, le chanteur brésilien, sur un air de musique du Nord-Est, eh bien, disait ciao, ciao, ciao aux Mexicains, car le Brésil s'est donc qualifié pour le quart de finale, grâce à sa victoire, bien sûr, un 2-0. Ça a l'air d'être le tarif des Brésiliens dans cette Coupe du Monde, avec en plus un but de Neymar. Alors, la Seleção a dominé les Mexicains, surtout en deuxième mi-temps. On va en parler de ce match. Ce match qui, finalement, Cindy, tourne à la faveur des Brésiliens, mais la première mi-temps a été compliquée parce que les
Mexicains.
Voilà, exactement.
On a envie de leur chanter aux Mexicains un mariachi en leur disant canta y no llores, parce que c'est vrai que en fait les Mexicains
chantent et ne pleurent pas.
Pendant les 20 premières minutes, les Mexicains, ils ont vraiment mis en difficulté les Brésiliens avec un pressing très 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 haut. On s'est dit, c'est heureusement que Thiago Silva était là avec Miranda.
C'est un gros tournoi d'ailleurs, Thiago Silva.
Ah oui,
il a retrouvé son niveau.
Ouais, exactement. Monstre.
Avec Miranda pour bloquer ça, parce qu'il fallait vraiment être costaud, solide et rester très calme.
Mais leur plan était de marquer d'entrée justement, et ça, ils n'ont pas réussi.
Oui, exactement. Donc
ils ont laissé de l'énergie.
Mais je préfère ce genre d'équipe panique qui arrive avec au moins un plan de jeu, pas celui de mettre un autobus devant le but, parce que ils savent que la puissance offensive du Brésil est absolument exceptionnelle. Ils se sont dit, attendez, c'est nous qui allons les attaquer en premier, on va les prendre par surprise, comme des plans de bataille de guerre médiévale ou de guerre antique, où vous voulez surprendre votre ennemi. Ils sont montés au pressing, ils ont essayé d'imposer leurs idées et leurs jeux. Moi, je préfère voir une équipe qui en veut, qui va agresser, entre guillemets, l'équipe qui semble la plus forte, que plutôt des équipes qui se recroquevillent, et dont, finalement, le scénario est toujours un peu le même, comme lors de cette Espagne-Russie, où on attend, on s'embête,
et c'est l'ennui.
Mais
et surtout, ça va au
donc,
terrible tir au but.
Cette équipe du Mexique, elle a montré de la fraîcheur, elle a montré du jeu, elle a montré aussi des qualités, à l'image d'un Lozano, d'un Vela. Bon, ils peuvent sortir la tête haute, mais en même temps, le Mexique, bon, enfin, à un moment, vaincre le signe indien, ça
c'est
fait 7
fois. C'est la 7e fois qu'ils sont éliminés en 8e de finale. Ouais. C'est terrible.
Oui, c'est une malédiction. Enfin, il y en a vu tellement
de
malédictions.
Ils tombent souvent sur le Brésil, j'ai regardé, souvent sur l'Argentine, et ils sont tombés aussi sur l'Allemagne et les Pays-Bas.
Oui, ils tombent sur des costauds.
Ils ont jamais eu un huitième de finale plus ou moins tranquille. Bon, bah c'est comme ça.
Là, ce qui est frustrant, et je rejoins Annie sur ces points, c'est qu'on est d'accord que les Mexiques, ils ont été plus que respectables par rapport à toutes les choses qu'ils ont faites, tous les matchs, même contre l'Allemagne.
Oui, leur match voilà, contre l'Allemagne.
C'est manque de réalisme, en fait. Ils ont eu des occasions, ils en ont eu pendant les 20 premières minutes, et comment ça s'est fait qu'ils n'arrivent pas à
conclure.
À conclure
parce que c'est fort en face. Tu as parlé à juste titre de Thiago Silva.
La très bonne défense qui n'est pas la défense allemande. Hein.
Leur gardien, là, Alisson, il est sur un nuage. Hein. Il a une sérénité, ce gardien, c'est exceptionnel.
Freddy ?
Oui, ils avaient montré du très bon jeu d'ailleurs. J'en avais parlé ici, j'avais dit que c'était l'une des équipes qui m'avait marqué le plus dans le jeu notamment. Ils étaient venus avec des idées claires dans le jeu où ils avaient vraiment un pressing intense. On dirait d'ailleurs le sélectionneur mexicain, il a la fibre Bielsa entre guillemets, même si Bielsa n'est plus le grand ami de Nabil. Ils ont montré dans ce match l'envie. D'ailleurs, le match avait débuté même en dehors. Avant le match, il y avait eu beaucoup de piques lancées par les Mexicains, notamment le sélectionneur sur Neymar, etc. J'ai trouvé qu'ils ont montré du caractère, mais ils ont pêché dans la finition, notamment. Ils sont tombés sur une équipe très sérieuse du Brésil qui a su calculer le coup et attendre. Il avait raison, le sélectionneur serbe, quand il disait que le Brésil est comme une équipe de club. Ça veut dire qu'ils réfléchissent dans le long terme et ils savent calculer et frapper au bon moment.
Alors, c'est vrai que Neymar, à la fin du match, a dit ils ont beaucoup parlé, mais ils rentrent chez eux. Il était un peu ironique, mais il faut dire qu'ils l'ont bien cherché. Ouais. Et notamment, le sélectionneur mexicain, à la fin du match, s'est un peu déchaîné contre Neymar. Alors, sans jamais le citer, d'ailleurs, et en dénonçant l'arbitrage et en disant mes joueurs étaient fatigués par autant d'arrêts de jeu et de moments qui ont haché le rythme de ce match. Et Tite, une nouvelle fois, a dû défendre Neymar. N'oublions pas Neymar qui est auteur d'un but et d'une passe décisive, donc qui a fait quand même beaucoup dans ce match et qu'on a pas mal retrouvé, on va en parler. Tite, une nouvelle fois donc au secours de sa vedette.
Je vais vous dire quelque chose. Neymar, avec sa blessure au pied, a été 3 mois et demi sans jouer. Pour un joueur de son niveau, c'est énorme. Vous ne revenez pas comme ça. Le processus est long. Tout le monde voudrait qu'il soit à son meilleur niveau. Eh bien, il l'est. Il revient à son meilleur niveau. Regardez le match qu'il fait face aux Mexicains. Il a été le moteur de l'équipe. Après, il y a toutes les polémiques autour de lui. Vous trouvez qu'il fait du cinéma ou de la provocation? Non, non. Il aime le jeu. C'est tout. Provoquer, dribbler, déstabiliser l'adversaire. C'est ce que je lui demande. Ça fait partie des caractéristiques du football brésilien. Et il ne faut surtout pas qu'on perde ça.
Le football brésilien a cette caractéristique, principalement dans le dernier tiers du campo.
Et oui, alors évidemment, Tite, il est très heureux d'avoir ce Neymar dans son camp, Freddy. Mais surtout, Neymar, il y a quand même aussi on a l'impression que c'est un peu le bouc émissaire en ce moment de tout.
Il est très chahuté, il est très moqué sur les réseaux sociaux.
On a trouvé sa faille, quoi. Voilà. C'est dommage.
Bien
mais
entendu.
En fait, moi, très honnêtement, dans cette histoire qu'il y a eu avec la Young, heureusement que je suis pas arbitre parce que les deux prennent un carton. Il est vrai que la Young
qui lui écrase la cheville
lui marche
à un
dessus.
Moment.
Et le problème, c'est que Neymar a tendance, c'est un très grand joueur, à exagérer un petit peu. Et ça y est, on lui a trouvé sa faille. Et donc, il faut vraiment qu'il fasse attention puisque les arbitres aussi regardent les matchs. Donc, au bout d'un moment, on commence à se rendre compte
qu'il fait exprès.
Malheureusement, il y a une accumulation d'effets qui fait qu'aujourd'hui, Neymar est le bouc émissaire parfait, entre guillemets, du mec qui est de la pleureuse, etc., qui est moqué sur les réseaux et moqué par tout le monde. Mais je trouve aussi qu'il y a les adversaires sont extrêmement durs vis-à-vis de Neymar. Moi, Neymar, je l'aime bien et je trouve aussi qu'il y a un côté un peu trop excessif. On s'appuie trop sur le fait que il simule, il tombe beaucoup, etc. Pour lui en mettre davantage des coups. Et les Mexicains, comme quelques-uns des autres adversaires du Brésil, en ont profité en mettant davantage de coups. Il subit énormément
de
coups.
22 fautes quand même contre
voilà,
lui.
Il fait pas tout le temps semblant.
On se souvient contre la Suisse aussi.
Voilà, je trouve qu'il y a un acharnement sur le gamin, même si son jeu aussi est très provocateur.
Seulement dans ces matchs-là, il y a eu 6 fautes contre Neymar.
C'est
donc
beaucoup,
il s'attaque, c'est clair.
Là, ils attaquent le point faible. Ouais. Nabil, vous trouvez que Neymar, bon, alors peut-être attaqué, mais aussi, il fait son match, je dirais. Il dit que, en gros, je les laisse parler. Et il le dit, il a fait une réponse en disant les critiques comme les éloges, je ne les écoute pas, je suis là pour faire gagner mon équipe.
Je l'ai trouvé un peu moins dans le jeu d'acteur sur ce match-là. Je pense qu'on le verra de moins en moins dans ce jeu-là, plus la compétition va avancer. On est dans les choses sérieuses maintenant.
On va faire un tout petit peu.
Depuis le dernier match, je pense qu'il a.
Depuis le premier match, surtout. Au pays, il a été beaucoup moqué.
Oui, ou quand il a pleuré et tout. Après, bon,
mais quand il avait roulé, vous
souvenez. Oui, quand il a fait un triple axel.
Partout.
Mais c'est vrai qu'il a raison, Freddy. À un moment, il prend aussi beaucoup, il déguste beaucoup. Alors,
exactement.
Il fait des différences incroyables sur ses percussions, sur ses premiers appuis, mais bon, on sent tout simplement qu'il est le plus fort.
Et non, il l'a fait passer au Brésil, ça je trouvais ça hallucinant, la barre des 126. En fait, il y avait l'Allemagne qui avait réussi à marquer en Coupe du Monde 126 buts, et là ils sont à 228 grâce au but de Neymar, en fait.
Non, mais donc, Neymar est un dribbleur, Annie, mais ses statistiques sont juste incroyables. Je pense que si on fait la comparaison, c'est génial. Sur les 99 derniers matchs du Brésil, on a marqué 91 buts. Vous imaginez, il a 89 matchs avec la sélection brésilienne, il a 57 buts avec 34 passes, c'est génialissime. Même
et l'efficacité,
si, après,
parce que
peut,
si on compare par exemple un CR7, pour marquer 6 buts, Neymar, il lui faut 38 tirs, un CR7, il lui faut 60 et quelques. Enfin, il faut les doubles. C'est hallucinant.
C'est une arme fatale.
Ouais, enfin, moi j'aime beaucoup CR7 aussi, mais il n'est pas entouré des mêmes joueurs CR7.
Oui, oui.
Quant à Philippe et Coutinho, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est Michael Jordan avec Scottie Pippen. Et Scottie Pippen, c'est Coutinho. C'est un joueur fantastique également, qui apporte un peu l'huile, quoi, qui est nécessaire à la transmission du côté brésilien.
Je comprends,
brésilien.
Il y a tout le débat généralement qui est posé sur les grands joueurs en disant ils sont souvent bons en club et souvent dans le pays ils sont pas très bons. Mais Neymar, il est très bon depuis ses 18 ans, depuis qu'il a commencé en Seleção. Il est génialissime quand il porte le maillot du Brésil.
Non, mais c'est pas genre jouer avec le Liberia. Enfin,
je refuse pas.
Plus facile d'être
même quand il a débuté il avait des sélectionneurs qui tâtonnaient sur le chemin tactique. Le Brésil est passé dans une période où ils étaient moins bons.
Oui, mais
même les joueurs,
je suis d'accord, Freddy, mais
donc
il est dans un très grand pays de football, le plus grand pays de football de l'histoire. Il est
fort. En 2014, on l'avait vu, il était un peu seul et un peu isolé. Voilà. C'est ce
mais il avait été bon au premier tour, jusqu'à ce qu'il se blesse.
C'est aussi ce qui
en même temps, quand t'as des joueurs comme Willian et tout ça autour de toi, alors je dis pas.
Cette fois, il faut les lâcher parce qu'il était pas mal.
Ah non, mais bon.
Tu as fait une super transition parce que tu as parlé des joueurs quand même qui sont bons dans leur sélection de leur pays et moyens dans leur sélection. Et là, du coup, au choix. Ça, c'est vraiment.
Non, c'est ça la différence.
C'est
moi,
la
je trouve génial quand
il
est match
là. Je pense qu'il est parmi les meilleurs gardiens du coup de la Coupe du Monde là avec
Alisson.
Tous les arrêts. Non, au choix avec les 25.
Ah oui, lui c'est un phénomène tous les 4 ans.
Oui, avec les 25 ballons arrêtés. Mais quand on voit par exemple ces matchs avec les Belges, parce qu'il est en sélection en Belgique, c'est.
Ouais, lui c'est plutôt l'inverse au choix. Il est pas bon en club,
mais
il est très bon en sélection.
Ils ont pas mené encore plus, ils ont pas été encore plus les Mexicains, mais c'est grâce à lui parce qu'il y a eu des.
Il a arrêté effectivement beaucoup de choses. Ouais.
Oui.
Notons aussi que l'autre but a été marqué, finalisé, on va dire, parce que c'est Neymar qui fait presque
Firmino,
tout,
ouais.
Mais c'est Firmino qui lui aussi.
C'est
vrai qu'il est très bien
encadré. Il y a le jaillissement de Fernandinho au milieu de terrain. Mm-hmm. Également qui a remplacé Casemiro.
Exact.
Et qui sera titulaire certainement face à la Belgique puisque
Casemiro est suspendu.
Il jaillit et puis il donne un ballon en profondeur dans un timing parfait à Neymar. C'est aussi ça le Brésil. C'est un collectif impressionnant.
Ouais. Eh ben, on y reviendra à ce Brésil puisque donc ce sera Brésil Belgique,
belle affiche,
un quart de finale vendredi soir
à Kazan.
Donc commenté par Hugo Moissonnier et on devrait avoir des buts si on en croit ce que nous disait Olivier Pron. On continue sur les autres matchs. Suite donc demain de ces huitièmes de finale. Alors, est-ce qu'il y aura de la folie dans l'air? On peut se demander si on aura plus un samedi ou un lundi qu'un dimanche. Dans l'après-midi, Suède, Suisse, tous les deux, donc ces deux matchs à 14h en temps universel, c'est à Saint-Pétersbourg. La Suède, alors une équipe, on l'a dit, qui renverse un peu tout sur son passage. Pendant les éliminatoires, c'était les Pays-Bas, en barrage, c'était l'Italie, et puis en Russie, c'était l'Allemagne. Les Helvètes seraient favoris un peu plus sur le papier, comme on dit, parce qu'ils ont certains grands joueurs. Peuvent-ils faire mieux que dans les éditions précédentes? Eux, ils ont deux joueurs suspendus, et pas des moindres, parce que c'est Lichtsteiner et Char. Le sélectionneur, en tout cas, c'est Vladimir Petkovic, et il veut y croire.
C'est un nouveau cycle qui commence. Les compteurs sont remis à zéro et il nous faudra être à 120% face à un adversaire très costaud qui a fini premier dans un groupe très difficile et qui auparavant avait écarté l'Italie. Il nous faudra tout faire pour gagner ce match. Il nous reste peu de temps avant d'aller sur la pelouse et dans quelques heures, il faudra décider quels seront les 11 joueurs qui vont démarrer ce match.
Nabil, ce Suède-Suisse, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que les Suisses, justement, dans un nouveau cycle, sont peut-être favoris?
Je crois pas qu'il y a un favori, c'est du 50-50. Ces deux équipes ont rendez-vous avec l'histoire. Alors peut-être plus la Suisse qui ne connaît pas qui n'a jamais été en quart de finale, si je dis pas de bêtises. La Suède, ils sont arrivés en 94 en demi-finale. Ils avaient perdu face au Brésil, si je me souviens bien, alors que de l'autre côté, il y avait un Bulgarie-Italie. ou se croiser. Enfin, les Suédois étaient arrivés en demi-finale à cette époque-là.
Mais en 58, je crois qu'ils disputent la finale.
En 58, hein. Oui, ils perdent 5-2 contre le Brésil. Mm-hmm. Donc, oui, puisqu'ils organisaient la compétition notamment à Stockholm. Moi, je préfère un peu la Suisse. Personnellement, c'est juste une sensibilité personnelle parce que je la trouve plus joueuse, plus technique à l'image de joueurs comme Shaqiri qu'on a vu flamber la dernière fois contre la Serbie. Mm-hmm. Ouais, Shaka. Et puis, j'aime bien l'histoire de la Suisse avec des strates d'immigration qui s'est, un peu comme France 98, j'aime bien cette idée. Puis c'est une sélection qui a bien travaillé dans les catégories jeunes ces dernières années, même depuis le début des années 2000. Ils ont remporté des compétitions et quelque part ils concrétisent aussi ça. Et rappelons quand même, ce n'est pas anodin, ils ont accroché l'équipe du Brésil. Alors certes, c'était en tour de poule.
C'était le premier match,
effectivement. Mais ça veut dire que c'est quand même une équipe qui a des ressources. Mais les absences que vous avez citées sont quand même importantes. Lichtsteiner, c'est un cadre. Et Cher, c'est un très bon défenseur.
Ouais, mais
Freddy.
La différence, je pense que l'équipe de Suède a bien plus de caractère que cette équipe suisse.
On les a vus contre les Allemands. C'était un match
ils ont
incroyable.
Du caractère quand même, Freddy. Ils perdent 1-0.
Je trouve qu'ils
ils ont renversé la situation.
Non, je refuse pas, mais cette équipe de la Suède nous a montré une envie beaucoup plus grande. Ils n'ont pas d'énorme talent. C'est une équipe qui repose essentiellement sur son collectif et je pense que le collectif prime depuis un moment sur le talent individuel et les Suisses, je pense, ils se reposent beaucoup sur leur talent individuel, même s'il y a beaucoup plus de technicité. Ça va jouer au mental comme pas mal de matchs depuis le début.
Deux bons gardiens des deux côtés, important à signaler. Sommer, notamment le gardien de Mönchengladbach, passé par Wolfsburg, est un excellent gardien. Il y a aussi le latéral gauche Rodriguez qui est aussi un super joueur. Franchement, ils ont des arguments, les Suisses. Ils peuvent avoir rendez-vous avec un quart de finale si tout se passe comme prévu.
Je pense que ça va être un match assez équilibré, hein. Je pense pas que ce soit un match très fort comme on a vu entre par exemple les matchs qu'on a vu tout à l'heure avec les Belgiques, les Japon. Je pense que ça va être assez équilibré. En plus, ils n'étaient pas favoris, c'était pas vraiment une des équipes qu'on attendait comme ça.
Ils ont même une carte à jouer. Franchement, quand on voit le tableau. Il y a l'Angleterre et la Colombie. Alors certes, elles paraissent.
Il n'y a plus l'Espagne.
Elles paraissent comme très très beau tableau.
Elles paraissent plus fortes, évidemment, potentiellement. Mais quelque part, franchement, si ça s'ouvre, tu peux te dire, il y a peut-être moyen d'accrocher une demi-finale.
Mais vous parlez de l'Angleterre, mais il y a aussi la Colombie. Et justement, on va en parler parce que ça sera le match d'après. Mais ce qui est intéressant, c'est du côté des Suédois. Vous savez que le capitaine, pendant un moment, il s'était dit qu'il ne serait peut-être pas là. Andreas, alors j'imagine qu'on dit Grandvist. Hein. Il a finalement, parce qu'il va être papa de son deuxième enfant, il avait reçu l'autorisation
de l'entraîneur.
Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un huitième de finale qui pourrait permettre de disputer un quart de finale. Et donc, Madame Sophie Grandvist, eh bien, finalement, elle va vraisemblablement donner la vie à leur deuxième enfant toute seule. Il n'ira pas, il préfère soutenir son équipe nationale. Alors, l'autre rencontre, c'est le huitième match, et dernier de ces huitièmes de finale, Colombie-Angleterre. Alors là, peut-être que Cindy, ça promet plus de spectacles, pas seulement parce qu'il y a une équipe d'Amérique du Sud. L'Angleterre, qui a laissé filer son dernier match contre la Belgique, a un peu énervé les gens au Royaume qui se sont dit « ça y est, les éternels outsiders des Coupes du Monde ». En tout cas, écoutons Radamel Falcao, une des vedettes de ce match, le capitaine des Cafeteros.
C'est le genre de match que nous rêvons tous de jouer depuis tout petit. Je suis un homme qui rêve beaucoup, mais en même temps, je suis conscient qu'il faut avancer pas à pas. C'est ce que nous faisons depuis notre premier match de poule, qui n'a pas été bon. On savait que nous avions deux finales à jouer, et nous avons passé le premier tour en appliquant ce principe. Maintenant, nous avons un huitième de finale, contre une grande sélection, et il faut continuer de la même façon, match après match. Ce tournoi montre l'équilibre qu'il y a au niveau mondial. Il n'y a pas de grosses différences entre les équipes. Après, bien sûr, l'Angleterre est légèrement favorite. Mais pour nous, c'est très beau d'être là et de pouvoir affronter une équipe comme l'Angleterre. Je crois que tous nos joueurs ont été bien préparés, qu'ils sont prêts et dans les meilleures dispositions pour ce match.
Alors cette montée en puissance de la Colombie, on l'a vu, hein, ils échouent au premier match contre les Japonais, mais d'une façon un peu rocambolesque, hein, le match est à 10 pendant l'essentiel. Là, c'est le problème du mollet de James qui inquiète dans une équipe qui commençait à avoir trouvé un certain rythme, Cindy.
C'est ça, et je pense que là, il y a 4 ans déjà, ils ont fait un peu l'exploit, les Colombiens, ils sont arrivés en quart, donc je pense qu'ils vont
éliminés par le Brésil.
Exactement, par un pays sud-américain aussi, donc je pense qu'ils vont en tout cas essayer... de refaire cet exploit-là, d'arriver aussi loin qu'ils étaient arrivés. Et de leur côté, les Anglais, ils ont du mal, au fait, à arriver donc en quart depuis un certain temps. Donc, ils vont aussi essayer. Donc, ça, c'est un match où je pense...
Mais les Colombiens, leur force, quelle est leur force par rapport à l'Angleterre?
L'attaque. Moi, je pense, même si Kane est un très, très bon attaquant, enfin, du côté anglais, mais je pense que l'attaque est très, très, très forte. Ils sont
c'est une équipe puissante. La Colombie, c'est une équipe qui est dans toutes ses lignes et est composé de joueurs de très haut niveau. Il y a des joueurs qui sont très connus, certes. On va parler de James, on connaît tous Falcao, mais prenez le latéral gauche colombien. Pour moi, c'est une des révélations de la compétition. Mojica, qui joue à Gérone tous les jours, il joue dans les grandes sélections nationales. C'est un pays de talent qui a toujours eu des grands joueurs de football, qui n'a jamais concrétisé.
Et vous avez vu dans les tribunes, Valderrama, systématiquement Valderrama et Higuita. Ouais. Hein.
Ils ont l'air un peu moins chiant que Maradona avec les Argentins, si je peux me
et
permettre.
Les doigts, ils font pas
de déclarations qui mettent leur coéquipier dans l'embarras. La charnière centrale, Annie, de la Colombie, elle est plus forte que la charnière, même s'ils jouent à 3, c'est plus fort Yeremina que les défenseurs anglais. Yeremina et Davinson Sanchez, mais c'est plus fort que Stones, mais tous les jours. Donc cette équipe colombienne, c'est une des grandes nations de ce tournoi. Elle n'a pas gagné le mondial en 66, c'est vrai qu'elle n'a pas inventé le football, c'est vrai qu'on l'a...
Ah oui,
l'Angleterre. Je parle.
Voilà.
C'est vrai qu'elle a déçu en 94. On l'attendait au bout de la compétition, mais la Colombie, c'est pas loin du Brésil. Au-dessus, c'est aujourd'hui au-dessus de l'Argentine.
En tout cas, ça bat dans cette tendance-là.
Ils sont venus gagner en France, hein, en match amical.
Oui, on s'en souvient. Mais c'est vrai. Et puis en plus, c'est beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et avec toujours le même entraîneur qui est l'Argentin, José Pekerman.
Pekerman en Argentine, il échange tous les jours contre Sampaoli. Hein.
Bah, c'était lui la grande époque. Argentine avec Caniggia et tout ça.
Ce qui est dangereux chez eux, c'est que c'est vrai, on l'a vu quand il jouait contre la France, il ne lâche rien.
Ça
va être des personnes qui vont aller avec la passion, sud-américaine.
Ce qui est génial,
justement,
avec l'équipe de la Colombie, c'est que je pense qu'elle a plus de caractère que l'équipe d'Angleterre. Ouais. Et puis, en parlant de défense, elle est très jeune, mais elle a l'air plutôt rassurante. Au premier match, le Pekerman avait mis sur le banc Yeremina, le joueur de Barcelone. Il avait finalement mis dans le deuxième match et il a plutôt rassuré cette défense.
Il sortira plus, lui. Ouais.
Un petit mot sur l'Angleterre, Freddy.
Ouais, cette Angleterre-là, elle est jeune.
Elle va vite,
mais
elle a des talents aussi.
C'est un peu comme la Belgique, mais ils peuvent nous surprendre dans le mauvais côté. C'est-à-dire qu'ils sont capables de grandes choses, mais ils sont capables aussi de se planter sur un match, notamment un match
entre
en jeu.
Harry Kane, Dele Alli.
Elle a des arguments, cette équipe d'Angleterre, et puis elle doit sortir un peu de ce statut de l'équipe la plus surcotée dans les compétitions internationales. On l'attend toujours, elle n'est jamais à l'arrivée. Forcément, on se calque sur l'économie du football, c'est la première ligue, c'est le championnat le plus riche. On imagine donc que l'Angleterre doit être toujours parmi les meilleures nations du monde.
Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'anglais.
Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'anglais
dans les clubs.
Dans les grands clubs. Après, tactiquement, elle nous surprend. Elle joue à 3 derrière. Ils ont trouvé avec Gareth Southgate un entraîneur qui semble se caler sur les codes générationnels de ses joueurs. Il est jeune, il est dynamique. Et il a fait des choix, on verra face aux Colombiens.
Et voilà, suspense jusqu'à demain soir pour savoir qui disputera le quart de finale.
Votre pronostic ?
Et le vôtre ?
Je ne suis pas un devin, je suis un malin, c'est tout !
Nous sommes d'accord.
Allez, vous n'êtes pas devin, mais quelle sera l'affiche du quart de finale selon vous, Cindy ?
Quelle est l'affiche ?
Oui. Qui sera en quart de finale entre les quatre équipes ? Suisse-Suède et Suède-Suisse.
Moi, j'espère Suisse-Colombie.
Colombie.
C'est une sensibilité personnelle.
Ok. Freddy ?
Pour moi, le stade sera colombien face à l'Angleterre et donc la Colombie passera. Et je crois que
c'est vrai qu'il y a une ferveur sud-américaine.
Génial. Et le talent l'emportera, je pense que la Suisse passera.
Colombie-Suisse. Cindy ?
Je pense que Colombie peut les faire. Enfin, en tout cas, je leur souhaite d'aller aussi loin qu'ils sont allés.
Et alors, Colombie contre qui ?
Suisse, je la trouve un peu plus forte.
Suisse.
Au niveau de...
Voilà. Eh bien, on verra demain. Vous êtes tous les trois d'accord ? Alors, on verra
et
demain.
Et vous, Annie, on a envie de savoir, là.
Ah non, mais moi, je peux pas.
Allez !
Non, moi, je passe au sujet suivant.
Bienvenue en Russie, les amis.
Allez, les petits.
Il a dépassé la ligne médiane. Kylian Mbappé en 1 contre 1 face à Marcos Rojo. Il est passé, il est entré dans la surface. Pénalty obtenu par Kylian Mbappé. Quel démarrage! Il a passé en revue toute l'équipe argentine, du moins ce qu'il en restait.
flashé à 37 km/h, le jeune attaquant français. Une action qui restera sans doute longtemps dans les mémoires, dans ce match entre la France et l'Argentine. Kylian Mbappé a ensuite marqué 2 buts et le voilà déjà à 3 buts dans cette compétition. Et voilà que pleuvent les éloges, les comparaisons. Et notamment, Nabil, demain, il sera à la une de France Football,
tout à fait, ouais,
avec un titre, effectivement, on le voit dessiné avec Pelé juste en dessous, oui. Et il est écrit Kylian Mbappé, l'héritier, avec le culot et le talent à la face du monde, le prince de Bondy qui suit les affolants temps de passage du Brésilien. Est-ce qu'il y a un peu trop de comparaison, selon vous, un peu trop de pression déjà sur ce jeune Kylian Mbappé qui a épaté tout le monde?
S'il y en a, en tout cas, il y en a déjà, il y en a déjà eu, et il y en aura toujours pour lui. C'est comme ça, il fait partie de cette caste-là, où il donne l'impression de faire partie de la caste des grands joueurs. Attendons, il est encore très jeune, faut confirmer, faut gagner des titres, faut s'affirmer. Alors certes, il a marqué les esprits sur ce match face à l'Argentine où il a tout simplement été époustouflant, mais il semble être fait du bois de ceux qui n'ont pas peur, en fait, quoi, dans ce qu'il renvoie, dans son énergie, dans ce qu'il fait sur le terrain. Il semble, comme on dit, câblé pour aller tout en haut. Maintenant, j'ai dit ça. Je ne dis pas dans l'avenir, je veux dire, on ne sait pas ce qui va se passer.
On sait bien qu'il peut arriver plein de choses, mais disons, si tout était normal, est-ce que sa route est...
Si tout est normal, après il va passer par des étapes, et peut-être que, comme l'a dit Florent Malouda, juste titre, peut-être que le plus dur commence pour lui, parce que...
On l'attend.
Oui, il a 19 ans, il ne faut jamais oublier son âge.
Puis surtout, c'est pas un petit clin d'œil, parce que je sais que Pelé lui a quand même mis un message et félicitations sur Twitter. Je me dis, c'est peut-être ça. Non, mais en réalité, c'est vrai que ça pourrait mettre à n'importe qui de la pression, mais je pense qu'on a aussi face à nous un joueur qui est très très mûr, enfin on n'arrête pas les éloges aussi du côté. Exactement, donc je pense
qu'il est hors norme sur le terrain et en dehors.
Il doit très très bien gérer cette pression là et je pense qu'il doit très bien essayer de relativiser ces choses là.
Oui. Alors, Freddy. Ces dernières années, je pense, il y a eu beaucoup de talents qui se sont succédés. Et nous, en Afrique, entre guillemets, on considère les Français comme des gens qui s'enflamment très vite sur des talents en comparant très rapidement.
Non, en Afrique, mais là, on s'enflamme pas, par contre.
Non, mais vous savez, au Brésil, même, alors là, des Pelé et des...
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs sur lesquels, Français et même nous, journalistes, on s'est enflammés énormément. Mais la différence avec Kylian, c'est qu'il y a, comme ce que Zidane a toujours eu et considéré qu'il avait toujours une étoile au-dessus, on a l'impression qu'il est béni, il a l'autre truc en plus qui fait qu'il peut faire la différence, justement, comme en quart de, comme à l'époque, en huitième de finale face à Manchester ici, et comme dans ce match-là où il fait la différence alors qu'il est tout jeune, alors que c'est l'un des plus jeunes dans le match, où il pulvérise, même si c'est une défense entre guillemets de retraité, même si c'est des joueurs même si c'est un match où la défense était limite, mais il a montré, il a envoyé un vrai message, comme il disait à l'époque, le message ce n'est pas pour ceux qui sont là, mais c'est pour ceux qui sont derrière.
En tout cas, il est adoré par les Argentins maintenant, parce qu'il y a par les Brésiliens, pardon, parce qu'il y a une vraie rivalité et on ne l'a jamais autant senti entre les Brésiliens et les Argentins.
On a senti qu'ils n'étaient pas, plus pour les Français,
maintenant, les Brésiliens vous aiment.
On verra le jour où on va les rencontrer. pour terminer l'émission, revenons sur la victoire des Belges et le soulagement que ça a provoqué du côté de Bruxelles. Écoutez.
Ah, c'est Meunier ! Voilà la passe !
Ils vont le faire !
Ça va être but ! Meunier pour Lukaku !
Ils vont le faire !
Et c'est
je l'ai dit, bordel ! Je l'ai dit ! Je l'ai dit !
Goal pour la Belgique !
C'est magnifique! C'est magnifique! 3-2! On est en quart de finale!
On est les Diables Rouges, tu vas voir comme ça bouge, je te...
Voilà, ces Diables Rouges qui, ce soir, nous ont endiablés, puisqu'ils se retrouvent face au Brésil pour le quart de finale, donc qui se jouera vendredi soir. Merci beaucoup. Il y aura un France-Uruguay et on aura le temps d'en parler cette semaine. Merci à tous. Merci à David Finzel qui était là, qui m'a aidé à préparer l'émission. Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. Et puis Swell Kedir et Laura qui était là pour Facebook Live. Vous pouvez nous voir, nous